Alors, bon matin à tous. Bon matin à toutes. C'est un plaisir de vous avoir ce matin à l'église. Donc, ce matin, on continue notre série dans le livre d'Exode. On est au chapitre 16 d'Exode. Et le thème pour aujourd'hui que j'ai donné à ce message, c'est « Appelé au travail et au repos ». Généralement, dans la vie, on tombe dans l'une ou l'autre des catégories. On est des gens qui aiment beaucoup le travail ou on est des gens qui aiment beaucoup le repos, n'est-ce pas? Et puis, je ne sais pas où est-ce que vous vous situez ce matin. Ou si on devait évaluer votre vie de l'extérieur, est-ce qu'on dirait que c'est un ou une bourreau de travail ou c'est quelqu'un qui sait vraiment se la couler douce? Si on va avoir des bonnes idées de vacances pour se reposer, c'est à cette personne-là qu'on va demander. Eh bien, ce matin, j'aimerais vous partager un petit peu la parole de Dieu, comment la parole de Dieu nous appelle à vivre une vie qui est équilibrée, une vie qui incorpore à la fois le travail et le repos. Et on va parler un peu de qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue biblique, le travail et le repos. Évidemment, on ne répondra pas à toutes vos questions ce matin sur le sujet, mais on va apprendre à réfléchir un peu à travers une histoire dans la Bible durant l'Exode, le voyage des Israélites en dehors de l'Égypte, où est-ce qu'ils doivent réapprendre un nouveau rythme de vie. Vous le savez, hein, lorsqu'ils étaient en Égypte, ils étaient des esclaves. Alors, lorsqu'on est dans l'esclavage, on ne fait pas ce qu'on veut. Mais lorsqu'on sort de l'esclavage, on apprend quelque chose de nouveau. Et nous, aujourd'hui, on est pas des esclaves, hein? Du moins pas du même type d'esclavage qui se vivait durant le temps de l'Égypte. Par contre, on est aussi appelé à renouveler notre perception du travail et du repos selon la parole de Dieu. Donc, on va débuter en lisant l'histoire. Prions pour rendre nos cœurs disponibles à entendre la parole de Dieu ce matin. Éternel mon Dieu, on veut te dire merci ce matin pour ta parole. Tu nous as donné ta parole, Seigneur Dieu, qui est là pour nous enseigner, qui est là pour nous donner un exemple, pour nous apprendre des choses. Et plus important encore que de connaître, tu veux qu'on soit capable de mettre en pratique ce qu'on apprend. Donc, rends nos cœurs disposés ce matin, rends nos intelligences bien grandes ouvertes, Seigneur Dieu, pour comprendre ce que tu veux nous dire par ton Saint-Esprit, à nous comme Église, mais aussi à nous individuellement, afin qu'on puisse le mettre en pratique. Je te demande, Seigneur Dieu, de nous donner le courage de mettre en pratique ce que tu vas nous inspirer ce matin à travers ta parole. Dans le nom puissant de Jésus, nous te prions. Amen. Donc, sans plus tarder, allons dans la parole de Dieu. Donc, l'Éternel s'adressa à Moïse. « J'ai entendu les murmures des Israélites. Dis-leur, au coucher du soleil, vous mangerez de la viande et le matin, vous vous rassasirez de pain. Ainsi, vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Le soir survint, des cailles couvrirent le camp et le matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Une fois cette rosée dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de petit, comme des grains, quelque chose de fin, comme de la gelée blanche sur la terre. Les Israélites regardèrent et se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-ce que c'est? » En effet, ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. » Voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, une mesure de 2 litres par personne, suivant le nombre que vous êtes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. C'est ce que firent les Israélites, et ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins. On mesurait ensuite la quantité précise. Celui qui avait amassé plus n'arrivait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Ils n'écoutèrent pas Moïse, et certains en laissèrent jusqu'au matin. Mais il s'est mis des vers, et cela devint infect. Donc, ça devient plus comestible, c'était plus mangeable. Moïse fut irrité contre ces gens. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture, et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Le 6e jour, ils en ramassèrent une double quantité de nourriture, 4 litres pour chacun. tous les chefs de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Celui-ci leur dit, « C'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qu'il vous restera. » Ils le laissèrent jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné, et cela ne devint pas infect. Il n'y s'y mit pas de verre. Moïse dit, « Mangez aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat en l'honneur de l'Éternel. Aujourd'hui, vous n'en trouverez pas dans la campagne. Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour, celui du sabbat, il n'y en aura pas. Le 7e jour, quelques membres du peuple sortirent pour en ramasser. » Mais ils n'en trouvèrent pas. Alors l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand refuserez-vous de respecter mes commandements et mes lois? Considérez que c'est l'Éternel qui vous a donné le sabbat. Voici pourquoi, le 6e jour, il vous donne de la nourriture pour 2 jours. Que chacun reste sous sa tente, que personne ne sorte de chez lui le 7e jour. Et le peuple se reposa le 7e jour. » La communauté d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre, était blanche et avait le goût d'un gâteau de miel. Moïse dit, « Voici ce que l'Éternel a ordonné. Qu'une mesure remplie de manne, soit conservée pour vos descendants. Ainsi, ils verront le pain que je vous ai fait manger dans le désert après vous avoir fait sortir d'Égypte. Moïse dit à Aaron, « Prends un vase, mets-y 2 litres de manne et pose-le devant l'Éternel, afin qu'il soit conservé pour vos descendants. » Suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moïse, Aaron le déposa devant le témoignage, afin qu'il soit conservé. Les Israélites mangèrent de la manne pendant 40 ans, jusqu'à ce qu'ils arrivent dans un pays habité. Ils mangèrent de la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. Donc ici, il se passe quelque chose. Si vous vous souvenez bien, cet été, on a parlé ensemble un peu de la critique, hein, et comment, entre autres choses, les Israélites dans le désert semblaient n'être jamais contents. Dieu faisait quelque chose et tout d'un coup, il y avait de la critique. Ou il y avait un besoin et plutôt que de l'apporter à Dieu dans la prière et dire « Seigneur, comment tu veux répondre à mon besoin? » Ils sautaient tout de suite à la conclusion que Dieu ne ferait rien pour eux. Et donc, ça devenait une critique négative envers Dieu, envers Moïse. « Tu vas nous laisser mourir dans le désert. Voilà, tu ne vois pas qu'on a faim. » Et c'est un peu comme ça que cette histoire-là débute aussi, n'est-ce pas? Et ça commence avec une critique. Et puis ensuite, Dieu répond qu'il va pourvoir à leurs besoins. Et c'est ce que Dieu fait dans ce texte-là. Il se révèle comme étant le grand pourvoyeur. Celui qui est assez puissant pour répondre aux besoins de son peuple, alors même que son peuple marche dans le désert. Le désert qui, on dira bien, il y a de la vie dans le désert, mais ce n'est pas tout à fait comme une terre qui n'est pas aride. Donc, le Seigneur se révèle à eux comme étant le grand pourvoyeur. Et je crois que ce matin, le Seigneur veut se révéler aussi à nous, à travers sa parole, comme étant celui qui peut répondre à nos besoins, même dans ces saisons-là de notre vie, où ça semble être un peu un désert aride financièrement. Et donc, voilà quelques points que j'aimerais qu'on puisse regarder ce matin. Donc, premièrement, la provision de Dieu, elle est constante. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans cette histoire-là? Hein? C'est que Dieu pourvoit à chaque jour et qu'il prévoit aussi une réserve pour le jour du repos. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose dans le Nouveau Testament? Jésus qui nous dit, hein, « Ne vous inquiétez pas, hein? Regardez les petits oiseaux, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, et pourtant votre Père les nourrit. » Alors, les Israélites dans le désert, ils expérimentent ça, que Dieu pourvoit de manière constante à leurs besoins. On apprend aussi que la provision de Dieu tient compte de nos capacités. Hein? Tous ont ce dont ils ont besoin, indépendamment de la quantité qu'ils ont ramassée. Donc, il y a comme un miracle qui se produit ici. Chacun fait ce qu'il doit faire pour amasser pour sa famille et Dieu fait en sorte que finalement, ils en ont assez pour répondre à leurs besoins. Donc, Dieu, dans sa provision, elle est aussi un peu miraculeuse, n'est-ce pas? On peut avoir passé par des temps qui sont difficiles financièrement, mais si on est encore là aujourd'hui, c'est parce que Dieu a pourvu. On a eu ce qu'on avait besoin pour manger, n'est-ce pas? Pour nous vêtir. Donc, Dieu prend soin de nous. Dieu se révèle aussi comme pourvoyeur dans cette histoire-là, en nous montrant que sa provision va durer toute notre vie. Donc, Dieu pourvoit pour les Israélites pendant tout leur séjour dans le désert, jusqu'à ce qu'ils entrent dans la terre promise. Et franchement, lorsque j'en faisais la lecture de ce texte-là, je trouvais que c'était une belle image de notre expérience aussi comme chrétiens. Où est-ce qu'on apprend à dépendre de Dieu, jour après jour, et où est-ce qu'on sait qu'on peut compter sur la provision de Dieu à nos besoins, jusqu'à ce qu'on entre dans la terre promise, qui est pour nous, hein, la terre promise, c'est l'éternité dans la présence de Jésus. Hein, c'est une belle illustration de notre réalité comme chrétiens. Et on voit également que la provision de Dieu s'étend à nos descendants. C'est pas seulement pour nous, c'est pour nos enfants, pour nos petits-enfants. C'est pour les gens dans la vie de qui on investit spirituellement et qui deviennent un peu des enfants spirituels, si on peut dire de cette manière-là. Et c'est quelque chose qui doit être enseigné également. Et c'est pour ça que le texte nous dit que la manne, elle est préservée pour être un symbole pour les prochaines générations, pour qu'ils puissent voir que Dieu est fidèle, Dieu pourvoit, et c'est pas juste pour mes parents, ou c'est pas juste dans la vie des autres. C'est appelé à être un témoignage pour « dans ma vie, Dieu se révèle comme étant le Dieu qui pourvoit ». Et peut-être aujourd'hui, ce qui est appelé à être un encouragement pour nous, c'est de voir que les paroles que Jésus nous a données, hein, qui nous rappellent que Dieu est un Dieu qui pourvoit, l'histoire des Israélites dans le désert, elle est pour moi aussi. Hein, spirituellement, je suis l'enfant ou le descendant spirituel de ce peuple-là qui a passé par le désert. Peut-être pas de sang, mais spirituellement, par la foi, par mon union en Jésus, par ma foi en Dieu, je suis d'une certaine manière descendant de cette réalité-là spirituelle. Donc cet encouragement, il est là pour nous aussi ce matin. Mais voici que ça, là, croire à ces vérités-là, que Dieu est un Dieu qui pourvoit, c'est pas facile. N'est-ce pas? Peut-être c'est un peu plus facile là, quand on a un bon travail ou quand on est né dans une situation où est-ce qu'on a plein d'opportunités. Mais c'est un peu plus difficile, n'est-ce pas, lorsqu'on vit des moments de difficultés financières, lorsqu'on a des responsabilités qui s'ajoutent, des imprévus. Hein, on a peut-être fait une bonne gestion financière, mais là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se rajoute qu'on n'avait pas prévu. La voiture est... Elle meurt, par exemple, et là, il faut faire une réparation ou en acheter une nouvelle. Hein, ou on pourrait mettre beaucoup d'exemples pour dire ça, mais il y a des endroits dans notre vie, des moments, des saisons où notre foi en Dieu qui pourvoit, elle est rudement mise à l'épreuve, n'est-ce pas? Ces choses-là arrivent à n'importe qui. Elles peuvent arriver à n'importe qui, n'est-ce pas? Et Dieu nous appelle à mettre notre foi. Mais ça demande un changement de mentalité radical. En Égypte, il n'y avait que l'esclavage. Donc, pour plusieurs générations, hein, le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'ils avaient appris de leurs ancêtres? C'est « on est des esclaves ». Et donc, l'esclavage vient aussi avec une prison intellectuelle, une mentalité, n'est-ce pas? Ou est-ce que il y a plein de choses hein, qui deviennent enracinées, peut-être dans notre héritage familial ou dans notre mentalité? Et même s'il n'y a pas ça dans notre historique familial, l'esclavage, il y a certainement une mentalité qui s'installe lorsqu'on est sans Dieu ou est-ce qu'on croit qu'on doit être son propre pourvoyeur? Et on ne peut compter que sur soi. Donc, l'esclavage n'est pas que littéral, il est aussi l'esclavage du péché, n'est-ce pas? Donc, la réalité sans Dieu, lorsque je ne mets pas ma foi en Dieu comme pourvoyeur, hein, que je ne compte que sur moi, eh bien, je deviens mon propre esclave. Si je veux répondre à mes besoins, je ne dépends que de moi. Et donc, Dieu appelle le peuple des Israélites à à changer cette mentalité-là. Mais ils sont libres. Alors, ils sont maintenant sans le système de l'esclavage. Ils ont été libérés de ce système-là rigide où on leur disait « tu fais ça », où ils devaient obéir à un maître. Hein? Nous aussi, en Jésus, on est libres de l'esclavage spirituel du péché. On n'est plus appelés à obéir au diable, n'est-ce pas? Mais notre esprit a besoin d'être renouvelé. Et voici deux tentations qu'on semble voir dans le texte auxquelles les Israélites font face. Le premier, c'est la tentation d'être un peu plus lousse, dans un certain sens, donc de négliger son travail. Et le texte nous dit ceci, « Certains en laissèrent jusqu'au matin. » Donc, Dieu avait dit, « À tous les jours, tu sors de chez toi et tu vas ramasser ce dont ta famille a besoin. » Hein? Et il y en a qui ont dit, « Non, non, je vais laisser jusqu'au matin puis je vais le manger finalement. Plutôt que de sortir demain pour aller ramasser pour ma famille, je vais manger ma réserve d'hier. » Ça n'a pas très bien fonctionné pour eux. Et donc, c'est peut-être un peu cette mentalité-là qui dit, « j'ai pas besoin de travailler, je vais juste vivre de mes réserves ou de celles des autres. Je vais me la couler douce. Maintenant que je suis libre, je vais me la couler douce, n'est-ce pas? » Et on voit aussi cette deuxième tentation-là. Et la deuxième tentation qu'on voit le peuple vivre, c'est l'esclavage du travail. Ils sont peut-être plus l'esclave d'un maître, mais ils demeurent l'esclave de leur travail. Et donc, ils se mettent dans un rythme où ils vont amasser sans faire confiance à Dieu et profiter de ce que Dieu leur donne. Donc, ici, le texte nous dit que le septième jour, hein, où Dieu leur a dit « je vous donne le repos », eux, ils vont sortir pour en ramasser encore. « Hey, let's go, j'ai une journée de plus, là. Let's go, let's go, let's go, il faut que je sorte pour en ramasser. » Et pour nous, c'est un peu similaire. Parfois, on peut croire que, oups, on ne peut pas prendre de jour de congé. Il faut que, on n'arrivera pas à tout faire. On n'arrivera pas à amasser assez. La tentation d'être esclave de son travail. Ici, au Québec, vous aurez peut-être déjà entendu cette expression-là, « né pour un petit pain ». Alors, c'est une expression culturelle que les Québécois qui sont établis au Québec depuis plusieurs générations ont probablement déjà entendu. Ça vient d'un roman qui a à peu près un siècle, là, un roman de la culture populaire québécoise, où est-ce qu'on disait, ben, t'es né pour un petit pain. En gros, t'es pas né pour avoir beaucoup de fonds, de ressources. T'es pas né pour avoir de grandes choses, accomplir de grands rêves. T'es juste né pour avoir accès à un petit pain. T'auras pas accès aux mêmes choses que les autres. Et parfois, lorsqu'on a cette mentalité-là, on veut soit l'accepter, se contenter de peu et se dire, ben moi, de toute manière, je suis pas faite pour en avoir beaucoup d'envie, donc je vais me contenter de peu. Ou, d'un autre côté, on peut devenir excessif et vouloir tellement avoir plus et briser cette pensée-là, cet esclavage-là mental, qu'on néglige de profiter de ce que Dieu nous donne, qu'on néglige de se reposer, qu'on néglige de prendre soin de sa famille, de prendre soin de son corps. Et donc, c'est un peu paradoxal ce que je vais vous dire ce matin, mais si vous êtes tenté de juste vous contenter de peu, hein, ne vous contentez pas d'un petit pain. Si vous avez envie d'abandonner parce que vous sentez que c'est trop difficile, dire, ben moi, je travaille plus, j'essaye plus, c'est trop difficile. Je veux vous encourager, contentez-vous pas d'un petit pain. Mais si d'un autre côté, là, vous travaillez tellement fort déjà, hein, et vous n'arrivez pas à vous reposer, soyez satisfait aussi d'un petit pain. Alors, si Dieu pourvoit déjà vos besoins de base, là, hein, entrez dans le repos que Dieu a prévu pour vous aussi. Sachez vous satisfaire de peu. Ce texte nous exprime comment Dieu pourvoit à la fois avec le travail et avec le repos. On va parler un petit peu du travail d'abord. Le travail. Premièrement, je dois dire, la conception moderne qu'on a du travail, la conception nord-américaine du travail, elle est un peu liée à l'industrialisation. Donc, tu sais, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, « Ah oui, ma femme est à la maison, elle ne travaille pas. » Si vous aviez dit ça à un Israélite dans le temps de Jésus ou à bien des gens avant la période de l'industrialisation, vous auriez dit « Hein, quoi? Je ne comprends pas qu'est-ce que tu veux dire. » Ben oui, « est à maison ». Oui, ben, dans une société d'agriculture, dans une société ancienne, même les hommes travaillent de la maison, ils travaillent sur leur terre. On peut penser à nos grands-parents. Hein? Le travail n'était pas divisé ou compris nécessairement de la même manière qu'on le comprend aujourd'hui. Hein, les gens qui sortaient de la maison pour faire du 9 à 5, c'était pas fréquent, là. Hein? Et même plusieurs d'entre vous, vous venez peut-être d'un pays où cette conception-là, c'est la même chose. Donc, lorsqu'on parle du travail avec lequel Dieu pourvoit, je veux quand même mettre cette mise en garde-là parce que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous n'avez pas un emploi que vous ne pouvez pas contribuer au bien-être de votre famille. N'est-ce pas? On contribue au bien-être de notre famille en leur cuisinant un bon repas. C'est une forme de travail, n'est-ce pas? On contribue au bien-être des gens autour de nous. Et je dis famille, et ce n'est pas nécessairement juste une famille biologique. Hein. Il y en a des gens qui n'ont pas nécessairement d'enfants ou de parents dont ils peuvent prendre soin, et ils appartiennent à la famille de Christ. Et donc, ils contribuent aussi à la société. Ils contribuent également. Donc, je voulais quand même mettre un petit bémol quand on parle du travail, parce que le travail ne se limite pas au 9 à 5. Chacun aussi contribue selon ses capacités, et on le voit un peu dans le texte, n'est-ce pas? Il y en a qui sont capables de ramasser beaucoup, et il y en a qui ne sont pas capables de ramasser beaucoup. Et c'est un peu la même chose pour nous lorsqu'on envisage le travail. On n'a pas tous la même capacité mentale et physique. Dieu le sait, n'est-ce pas? Il ne nous demande pas non plus de vivre en faisant fi de nos capacités. Il ne nous demande pas non plus il ne nous demandera pas d'avoir la même capacité que l'autre. Il sait qu'est-ce qu'il nous a donné, n'est-ce pas? Et ça nous rappelle quoi la parabole de Jésus? La parabole des talents, n'est-ce pas? Hein? Dieu avait confié certaines choses à certains, certaines choses à autre chose. Et Dieu les a jugés fidèles en fonction de qu'est-ce qu'ils ont fait avec qu'est-ce qu'ils avaient. C'est un peu la même chose pour nous, n'est-ce pas? On a différentes saisons de vie, état de santé, on a différents rôles. Et tout ça, ça fait partie de notre compréhension du travail. Mais tous, selon le texte, hein, tous avaient la responsabilité de contribuer au bien-être de leur famille. Et donc, lorsqu'on parle de travail, j'aimerais vous mettre ça dans une définition plus large que le 9 à 5. Donc, je veux qu'on puisse inclure ça aussi. Et le texte nous montre que Dieu donne à chacun 6 jours pour pourvoir à leurs besoins. 6 jours, c'est quand même bien, n'est-ce pas? La majorité des gens qui ont été élevés ici au Québec, quand ils pensent au travail, ils pensent 5 jours semaine. C'est un horaire typique, n'est-ce pas? 2 jours de congé. Dieu vous donne 1 jour d'extra. Donc, tous ceux qui sont accros au travail, vous pouvez faire comme « Yes! Moi, j'ai 6 jours! Yes! » Donc, Dieu pourvoit avec cette opportunité-là de travailler. Et la façon dont on fait notre travail va révéler notre maturité spirituelle, n'est-ce pas? Et c'est un témoignage pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. On pense souvent au témoignage comme étant un moment seulement où on s'assoit avec quelqu'un et lui dire « Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu as reçu Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur? » Et définitivement, c'est un témoignage direct hein, de dire « Voici ma foi en Jésus, elle est comme ça. » Mais cette foi-là en Jésus, elle n'est pas appelée à être seulement exprimée par nos mots. Elle était appelée à être vécue dans tous les domaines de notre vie. C'est pour ça que la parole de Dieu, par exemple, nous invite dans le Nouveau Testament. Hein, et Paul parle et il dit que celui qui ne prend pas soin de sa famille, qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient? Celui qui ne pourvoit pas aux besoins de sa famille, il est pire qu'un incroyant. Donc, il y a vraiment dans le cœur de Dieu cette notion-là que le travail, il est une expression de notre foi en Jésus aussi. Donc, il doit se faire pour le bien des gens qui nous entourent. Il y a quelques années, j'ai eu l'opportunité de travailler avec des gens que je connaissais bien. Certains d'entre eux étaient impliqués dans le ministère à l'Église et on a travaillé dans un contexte en dehors de l'Église. Ça s'est adonné qu'on a travaillé dans le même milieu de travail. Et je dois vous dire, frères et sœurs, que j'ai été choquée. Pourquoi j'ai été choquée? Parce qu'un de mes collègues, hein, qui enseignait à l'Église, prenait aussi des choses à l'employeur, se servait et ramenait à la maison des choses qui appartenaient à l'employeur. Croyez-vous qu'il s'agit de là d'un témoignage qui est positif? J'ai un autre collègue, et puis c'est vraiment triste parce que c'est une collègue non chrétienne qui vient me voir et qui me dit « Il faut que tu fasses quelque chose. Je sais que lui, il est dans ton église et qu'il est marié, mais il flirte avec une autre femme au travail. » Oh! Qu'est-ce que vous croyez que ça donne comme envie pour une personne qui est en dehors de l'église d'aller visiter votre église, n'est-ce pas? Oh! C'est ça que les chrétiens, ils font! Nous rendons témoignage de notre foi dans la manière dont nous exerçons notre travail. Et ça fait partie du témoignage silencieux du chrétien. La façon dont je fais mon travail, c'est une expression aussi de gratitude envers Dieu. On l'a parlé un peu de la parabole des talents. Dieu m'a donné la santé, Dieu m'a donné l'intelligence. Comment je vais m'en servir pour le bien de ma famille, pour le bien des gens qui m'entourent, pour le bien de mon église? Je fais par là, par mon travail, c'est une manière dont je rends grâce à Dieu pour ce qu'il m'a donné. Et ça peut être aussi une manière dont même financièrement je contribue. Ici, je ne sais pas s'il y en a probablement qui vont être familiers avec ça, mais les Gédéons, c'est une association d'hommes d'affaires. Donc, c'est des hommes qui travaillaient, hein, de manière séculière, qui ont dit, nous, on va prendre une partie de nos revenus, on va les mettre ensemble, on va acheter des Bibles et on va aller les déposer dans des endroits publics. Donc, on va les déposer, par exemple, dans les hôtels ou les motels. Il y a beaucoup d'endroits encore, même quand vous allez à l'hôtel, vous pouvez tirer le tiroir. Et là, qu'est-ce que vous trouvez? Vous trouvez une Bible qui a été payée par qui? Par des Gédéons. Donc, ils ont utilisé leurs revenus dans un travail séculier pour aller partager la parole de Dieu avec d'autres. Donc, à travers leur travail, ils sont devenus des ouvriers dans le royaume de Dieu. Si vous n'êtes pas convaincu encore, laissez-moi vous lire un autre passage du Nouveau Testament. « Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage et une récompense. » Donc, ce passage-là, il est vraiment dans un contexte de travail là, qu'il est écrit. Et Dieu nous prescrit de ce qu'on fait comme travail, le travail qu'il nous donne, même si c'est un travail qui est bien simple, puis on dirait, moi, je vaux plus que faire un travail de concierge, ou moi, je vaux plus que ce genre de travail-là. Si Dieu pourvoit avec un travail pour vous, faites-le non pas pour votre estime personnelle, faites-le pour la gloire de Dieu. Faites-le comme un service que vous rendrez à Dieu avec ce qu'il a pourvu pour vous. Faites-le pour le bien de votre famille, des gens qu'il a placés autour de vous. Voilà, de notre part, un acte de remerciement pour ce que le Seigneur fait pour nous. Peut-être, par contre, ce matin, vous dites ce que j'ai plus besoin ou ce que j'ai le plus de difficultés, c'est le repos. Moi, je ne me considère pas comme une personne qui est très douée pour me reposer. Chaque fois que les vacances arrivent, je me dis, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire qui n'est pas du travail? J'aime beaucoup mon travail. Le repos peut être difficile dans une société où économiquement, c'est plus difficile, disons, ces années-ci. Les loyers sont chers, la nourriture est chère, tout est cher. Mais le travail, c'est toujours un pas de foi. Le repos est toujours un pas de foi parce que le travail, c'est un peu un puits sans fond. Et j'aimerais vous dire, on n'est pas les premiers à vivre des difficultés quand vient le temps de parler de travail et de revenus. Les Israélites, comme beaucoup d'autres sociétés de l'époque, dépendaient de l'agriculture, n'est-ce pas? Ils ne pouvaient pas dire, « Hey, c'est correct, de toute manière, l'usine a fait plein de cannes, là, puis on va être capable de survivre longtemps avec nos cannes de bouffe, puis sinon, on va importer du Brésil. » Non. Donc, Israël dépendait de leur récolte. Et parce qu'ils dépendaient de leur récolte, il y avait des bonnes années, il y avait des mauvaises années, n'est-ce pas? S'il y en a parmi vous qui ont grandi sur une ferme, vous comprendrez ce que je veux dire. Quand c'est le temps des récoltes, il faut que tu opères. Hein? Quand c'est le temps de semer, il faut que tu sèmes. C'est très éprouvant physiquement et mentalement. Ça demande beaucoup de travail. Et c'est dans ce contexte-là, hein, et même dans le contexte du désert aussi, qui n'était pas un contexte facile, que Dieu leur demande de se reposer. Donc, il leur demande vraiment de prendre un pas de foi. Et c'est ça aussi pour nous, ça nous demande un pas de foi, de choisir de prendre du repos dans nos vies. Dans ma famille, il y a quelque chose que j'ai souvent entendu. Je vais me reposer quand je vais être mort. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu ça? C'est un dicton pas mal que j'ai entendu souvent. On se reposera quand on va être mort. Hein? Il y a tellement d'affaires à faire. Quand on va se reposer, quand on va être mort, on pourra se reposer. Eh bien, ça, ce n'est pas la définition du repos biblique. Oui, on chante « Quel repos, quel céleste repos, Jésus, quand je serai d'être à toi, n'est-ce pas? » On chante « Oh, quand je vais être dans la présence de Dieu, je vais me reposer. » Ça, c'est le repos éternel, bien sûr. Mais Dieu a aussi pourvu pour nous avec un repos temporel. Il veut aussi qu'on se repose. Et ça fait partie de notre vie comme chrétien. Le repos fait partie des commandements de Dieu. On a rarement pensé à dire, « Ah, la Bible dit, tu ne tueras point, tu ne commettras point l'adultère. Hein? » On n'entend pas de gens souvent qui disent, « Oh, mais ça, c'est pour avant, là, tu sais. Hein? » Mais tu honoreras le jour du sabbat, tu honoreras le jour du repos. On est très facile, c'est très facile pour nous comme chrétiens de mettre de côté et de dire, bof, c'est pas tellement important, n'est-ce pas? Je comprends pas trop ça sert à quoi, là, hein? Jusqu'à temps que je fasse un burn-out. Mais ça fait partie des commandements de Dieu pour nous. Une autre peut-être mise en garde ici, je veux quand même dire que la Bible reconnaît qu'il y a des inégalités sociales, que tous n'ont pas pu amasser de la même manière, et je l'ai nommé un petit peu. Et la parole de Dieu a aussi un encouragement pour nous. La Bible prescrit l'égalité, donc dans 2 Corinthiens, Paul dira ceci, « Il ne s'agit pas de vous exposer à la détresse pour en soulager d'autres, mais de suivre un principe d'égalité. » Dans les circonstances actuelles, votre abondance pourvoira à leurs besoins. » Il est en train de dire à l'Église de Corinthe, « Je vous invite à utiliser de ce que vous avez en trop pour en bénir d'autres. » Nous aussi, comme chrétiens, on est appelés à avoir cette réflexion-là par rapport à nos biens, par rapport à nos avoirs. Est-ce que peut-être d'autres souffrent parce que je suis un peu trop égoïste? Est-ce que je peux contribuer à l'égalité et à la justice en prenant un petit peu de qu'est-ce que j'ai pour en bénir d'autres? Je ne vous dis pas de vous mettre... Le texte ne dit pas de se mettre dans la détresse, n'est-ce pas? Il ne dit pas de se mettre dans le pétrin pour en aider d'autres, mais il dit de réfléchir à qu'est-ce que j'ai peut-être en trop qui pourrait être une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Et pour nous, le défi est celui-ci. Hein? Est-ce que je dois apprendre à donner plus pour que d'autres puissent jouir du repos que Dieu a prévu pour eux? Ou d'un autre côté, est-ce que je dois apprendre à recevoir ou à demander? Parfois, on ne sait pas qu'un frère ou une sœur est dans le besoin et on ne sait pas nécessairement l'aider. Donc, Dieu veut se révéler à nous comme étant notre pourvoyeur. Il ne veut pas qu'on vive comme des esclaves. Dieu, c'est pas le plan de Dieu que vous soyez esclave du travail. C'est pas le plan de Dieu non plus que vous soyez esclave du repos. Hein? Dieu veut nous appeler à compter sur lui, à compter sur lui dans notre repos, à compter sur lui dans notre travail. Donc, on fait notre part, n'est-ce pas? Mais on sait que tout dépend de Dieu au final. J'ai pas choisi l'opportunité que j'ai reçue. J'ai pas choisi la santé que j'ai reçue ou les capacités mentales que j'ai reçues. Je suis appelée à les investir, mais je suis appelée aussi à laisser aller une journée au moins, me reposer et compter seulement sur Dieu. Exprimer ma foi en lui à travers mon repos. Et Dieu veut nous enseigner à être satisfaits dans l'abondance comme dans la pauvreté, donc dans la précarité. Et nous voyons ce témoignage de Paul qui dira « J'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. » Si on allait un petit peu dans les petites lignes de ça, là, parfois, vivre dans la pauvreté, ça veut dire « J'apprends à me satisfaire de ce que je suis capable de gagner en 6 jours et je me repose une journée. Hein? » Parfois, j'apprends à demander quand j'ai besoin. J'apprends à accepter ce qu'on me donne. Pour d'autres, vivre dans l'abondance, ça peut vouloir dire j'apprends à utiliser mes surplus pour bénir d'autres. J'apprends peut-être à être plus fidèle dans mon travail, hein, plutôt que de m'asseoir sur qu'est-ce que j'ai déjà. Dieu nous appelle à vivre dans un état de contentement, un état de contentement qui ne dépend pas de notre statut financier. Une foi en le Dieu pourvoyeur, qui est notre Dieu, qui ne dépend pas du chiffre dans notre compte en banque. Donc, une stabilité dans notre foi, qui ne sera pas ébranlée là parce que j'en ai plus ou parce que j'en ai moins. Dieu pourvoit avec le repos, mais il nous faut le recevoir. Le texte nous dit ceci, « Considérez que c'est l'Éternel qui vous a donné le sabbat. » C'est un cadeau. Voilà pourquoi le 6e jour, il vous donne la nourriture pour 2 jours. Dieu a donné le sabbat. Dieu a donné le repos. Ésaïe dira ceci, c'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. C'est comme ça qu'il reprend le peuple d'Israël. Dieu vous l'a donné, mais vous ne l'avez pas voulu. Dieu peut nous donner beaucoup de choses, frères et sœurs, mais il faut vouloir le recevoir. Il faut choisir de le recevoir. Dieu ne nous tord pas le bras. Donc, frères et sœurs, on exprime notre confiance en notre Dieu qui est le grand pourvoyeur, à la fois à travers notre travail et à travers notre repos. 6 jours pour travailler, 1 journée pour se reposer. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous de prendre 1 journée de repos? Vivre?
De louer Dieu.
De louer Dieu, oui, effectivement. C'est quelque chose qu'on peut faire, hein, louer Dieu durant notre journée de repos, vraiment se concentrer sur Jésus. Est-ce que j'ai d'autres idées? Qu'est-ce que vous faites pour vous reposer? Myriam? T'asseoir dans un parc, profiter de la nature, ouais. Oui, derrière?
Dormir.
Oui?
Dormir.
Oui?
Dormir.
Ah, dormir, OK. Mon cerveau s'était mis en espagnol, je m'excuse. Oui, dormir, effectivement. Des choses qu'on n'a pas le temps de faire quand on a un horaire de travail, qu'on travaille 12 heures par jour, puis qu'on a plein de responsabilités. Dans certains cas, hein, ça peut vouloir dire, si par exemple on est maman ou papa bien investi avec les enfants, ça peut vouloir dire « je fais la bouffe la veille, puis cette journée-là, on mange des restants ou on mange la pizza. Ça peut vouloir dire, cette journée-là, je ferai pas de ménage. Congé de ménage, wouhou! Les enfants, faites autant de désordre que vous voulez, je m'en fous! Ça peut vouloir dire prendre le temps de profiter, si vous êtes marié, hein, d'un temps d'intimité avec votre époux, votre épouse, d'avoir une journée par semaine là où peut-être on fait garder les enfants, où on se fait un petit souper en amoureux après qu'ils soient couchés. On les couche plus de bonne heure, puis on se fait un petit dîner tête à tête. Donc, c'est une journée où est-ce qu'on apprend à juste se reposer de notre travail et profiter de qu'est-ce que Dieu a pourvu pour nous. Une journée de célébration. Donc, comment est-ce que Dieu t'appelle à grandir ce matin? Est-ce que c'est difficile pour toi de te rendre au travail, d'accomplir ton travail domestique ou d'étudier? Tu honores Dieu en le faisant. 6 jours par semaine, si tu veux. Est-ce que c'est difficile pour toi de te reposer ou de t'amuser ou de remettre quelque chose au lendemain? Bien, une journée par semaine, tu honores Dieu en le faisant, en remettant au lendemain là, ce qui peut être remis au lendemain. As-tu de l'abondance à partager ou de l'aide à accepter? On est une famille comme Église. Il faut se souvenir qu'on est une famille, donc qu'on est là pour prendre soin les uns des autres. Pas pour abuser les uns des autres, hein? La parole de Dieu nous encourage que chacun doit travailler et chercher à prendre soin les uns des autres. Donc, ça ne doit pas être juste une personne ou deux personnes qui travaillent, ou une moitié de l'Église et l'autre moitié qui attend qu'on lui donne, mais tout le monde est appelé à contribuer en fonction de leurs ressources. Tout le monde est appelé à donner et à recevoir. Alors, oui, Marc? Oui, exactement. L'abondance, ce n'est pas juste de l'argent, ce n'est pas juste des biens matériels. Parfois, c'est notre temps. Hein? Comme tu dis, parfois, c'est un espace à partager. Peut-être, parfois, c'est un prêt de quelque chose. Hein? Moi, j'ai prié durant le temps des fêtes. J'avais à cœur de bénir d'autres. Puis je dis, Seigneur, avec quoi je peux bien bénir? J'ai pas de maison, j'ai pas... Puis Seigneur m'a mis à l'esprit ma voiture. Et environ une journée après, des collègues qui sont également dans le ministère me disent que leur voiture est brisée. Et là, ils ne peuvent pas la faire réparer parce que le garage est fermé. Ils étaient supposés se rendre pour passer Noël avec leur famille qui habite loin, loin, loin. Et bien, moi, j'étais déjà dans ma famille. Je leur ai dit, bien, venez, prenez ma voiture. Alors, mon abondance a pu leur être utile. Et c'est un peu comme ce que vous avez fait pour ouvrir votre maison une journée. C'est un peu qu'est-ce qu'on peut faire en gardant les enfants d'une amie, par exemple, ou d'un couple pour qu'ils se reposent. Donc, il y a plusieurs manières dont on peut donner de notre abondance, que ce soit en temps, en espace, en prière. Donc, on est appelé à être une famille et à se supporter mutuellement. Alors, Église, prions. On va terminer sur ces mots. Merci beaucoup, Marc. Éternel mon Dieu, je te remercie de ce que c'est toi le grand pourvoyeur. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu ne nous appelles pas à une course effrénée, à vivre comme des esclaves, Seigneur, qui n'ont pas d'espace pour se reposer, qui n'ont pas d'espace pour profiter de la vie, de voir leurs enfants grandir ou passer du temps avec leur époux, leur épouse, avec leur famille. Mais Seigneur, tu nous appelles à la liberté d'un esclavage du travail, Seigneur. À la liberté, Seigneur Dieu, d'une fausse croyance selon laquelle on doit répondre à ses propres besoins, on ne peut dépendre que de soi-même. Mais tu nous appelles également, Seigneur Dieu, à participer et à profiter des opportunités que tu nous donnes à travers le travail. Seigneur, que nos cœurs ne soient pas lâche, Seigneur, lorsque vient le temps de travailler, que nos cœurs ne soient pas orgueilleux en refusant, Seigneur Dieu, le travail que tu pourvois, Père, mais que nous puissions humblement, Seigneur, te servir là où tu pourvois pour nous avec un travail, sachant que ta parole dit que celui qui est fidèle dans les petites choses va pouvoir l'être dans les grandes aussi. Et Seigneur, on te fait confiance, Seigneur Dieu, que si on est fidèle, Seigneur Dieu, dans les petits travails que tu nous confies ou les grands travails que tu nous confies, tu vas pouvoir nous en confier des encore mieux. Alors, toi, notre grand pourvoyeur, Seigneur, sois notre espoir, Père. Merci, Jésus. Merci d'être celui qui pourvoit nos besoins. Amen.